Chapitre 17, versets 1 à 6. Osée, roi d'Israël. Nous voici arrivés au dernier acte de l'histoire d'Éphraïm, autrement dit des 10 tribus. Osée, meurtrier de Pékak, règne 9 ans à Samarie. Tout en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, sa conduite vis-à-vis de lui est moins profane que celle de ses prédécesseurs. Seulement, il ne tient pas compte des jugements de Dieu qui avaient annoncé, par tous les prophètes, l'asservissement d'Israël à l'Assyrie. D'année en année, le roi Osée avait envoyé des présents au roi d'Assyrie, verset 3, suivant l'exemple de l'un de ses prédécesseurs, Menahem, qui, par des présents, s'était déclaré vassal de Pul, afin que ce dernier établît le royaume entre ses mains. Chapitre 15, versets 19 à 20. Plus tard, Tiglath-Pileser était monté contre Pékak et, comme nous l'avons vu, avait transporté en Assyrie les tribus d'au-delà du Jourdain. Pékak n'avait évidemment pas suivi, comme Menahem, la règle de soumission à l'Assyrie, ce qui expliquerait les motifs politiques de cette transportation qui ne nous sont pas donnés dans la parole, tandis que le motif divin nous est indiqué par un mot des chroniques. Dieu réveilla l'esprit de Tiglath-Pileser et il les transporta. 1 Chronique 5, verset 26. Ici, les procédés habituels des rois d'Assyrie envers Israël sont mis au jour. Shalmanézer, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée devint son serviteur et lui envoya des présents. Verset 3. La menace d'une invasion par un ennemi plus fort que lui oblige Osée à se soumettre, bien à contre-cœur sans doute, à ce vassalage. Mais ces présents ne lui servent guère. Ils sont montés vers l'Assyrien, dit Osée le prophète. Un âne sauvage se tient isolé. Éphraïm a fait des présents à des amants. Quand même ils ont fait des présents parmi les nations, maintenant je les assemblerai, et ils commenceront à être amoindris sous le fardeau du roi des princes. Osée 8, versets 9 et 10. Et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait, car Osée avait envoyé des messagers à Sô, roi d'Égypte, et il n'envoyait pas de présents au roi d'Assyrie comme il avait fait d'année en année. Verset 4. En effet, cette conduite double et suspecte du roi est mentionnée par le prophète. Éphraïm se repaît devant et poursuit le vent d'Orient. Tout le jour, il multiplie le mensonge et la dévastation, et ils font alliance avec l'Assyrie et portent de l'huile en Égypte. Osée 12, verset 2. Et encore, Éphraïm est devenu comme une colombe niaise sans intelligence. Ils appellent l'Égypte, ils vont vers la Syrie. Osée 7, verset 11. Aussi, découvrant la conspiration du roi, Shalmanézer l'enferma dans une prison et le lia. Verset 4. Le roi périt, selon la prophétie d'Osée, chapitre 10, verset 7, sans que les circonstances de sa mort nous soient rapportées. Le roi d'Israël, une fois prisonnier, le roi d'Assyrie monta par tout le pays et monta à Samarie et l'assiégea 3 ans. Verset 5, voir chapitre 18, verset 9. Mais ce ne fut pas Shalmanézer en personne qui s'empara de la ville, car il est dit « ils la prirent au bout de 3 ans ». Chapitre 18, verset 10. En effet, dans l'intervalle, Sargon avait succédé à Shalmanézer, ou du moins, était à la tête de l'armée pendant un court interrègne. Ésaïe 20, verset 1. Le sort de la ville rebelle fut terrible, selon la parole de Michée qui prophétisa au sujet de Samarie et de Jérusalem. « Je ferai de Samarie un monceau dans les champs, des plantations de vignes, et je ferai rouler ses pierres dans la vallée, et je découvrirai ses fondements. Et toutes ses images taillées seront mises en pièces, et tous ses présents de prostitution seront brûlés au feu, et je mettrai en désolation ses idoles. » Car c'est avec un présent de prostituée qu'elle les a rassemblées, et elles redeviendront un présent de prostituée. Michée 1, versets 6 et 7. Osée nous décrit aussi cet événement. Samarie portera son iniquité, car elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et on fendra le ventre à leurs femmes enceintes. Osée 13, verset 16. Et le roi d'Assyrie transporta Israël en Assyrie et les fit habiter à Calak et sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Verset 6. On a supposé qu'une partie des 10 tribus s'était enfuie en Égypte à ce moment-là. Nous ne pensons pas que le passage d'Osée, chapitre 8, verset 13, « Ils retourneront en Égypte », puisse être interprété de cette manière. Ce même prophète avait dit « Ils appellent l'Égypte, ils montent vers la Syrie », chapitre 7, verset 11. Puis « Éphraïm a fait des présents à des amants », chapitre 8, verset 9. Puis encore « Éphraïm retournera en Égypte et mangera en Assyrie ce qui est impur », chapitre 9, verset 3. Tout cela s'accorde complètement avec la conspiration d'Osée, comme aussi cette autre parole « Il ne retournera pas dans le pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera son roi », chapitre 11, verset 5. Descendre en Égypte ne signifie pas nécessairement s'y enfuir, mais y chercher du secours, comme il est dit en Ésaïe 31, verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours ». Quant au passage d'Osée 8, verset 13 et 9, verset 3, il faut bien remarquer que le prophète associe continuellement l'iniquité de Juda avec celle d'Éphraïm. Les peuples seront rassemblés contre eux quand ils seront liés par leurs deux iniquités. Et Éphraïm est une génisse dressée qui aime à fouler le blé, et j'ai passé sur son beau coup. Je ferai tirer le chariot à Éphraïm, Juda labourera et Jacob hercera. » Chapitre 10, versets 10 et 11. Comme il les réunit aussi après qu'ils auront été au comble de l'asservissement, dans la même bénédiction future, chapitre 10, verset 13. Cette remarque fait comprendre que « ils retourneront en Égypte », au chapitre 8, verset 13, s'applique à Juda, moralement associé à Israël. Ce qui le prouve, c'est le verset suivant. « Israël bâtit des palais et Juda multiplie les villes fortes », verset 14. Mais bien plus encore, « voici ils sont allés à cause de la dévastation, l'Égypte les rassemblera, Moph ou Noph, Memphis, les enterrera », chapitre 9, verset 6. Or nous savons, d'après le récit de Jérémie, chapitre 43 et chapitre 44, verset 1, que les transfuges de Juda s'enfuirent devant le roi de Babylone et se réfugièrent en Égypte et entre autres à Noph, forçant le prophète à les y accompagner, et que là il prophétisa contre eux quand ils se croyaient à l'abri de leur oppresseur. Voir 2 Rois, chapitre 25, verset 26. Note 1. À part cette explication, nous n'avons pas l'intention de résoudre les difficultés historiques contenues dans ces livres. C'est ainsi que nous laissons de côté pour la plupart les questions chronologiques. D'autres ont répondu aux objections de la soi-disant haute critique à leur sujet. Versets 7 à 41. Récapitulation divine de l'histoire d'Israël. Dieu récapitule maintenant lui-même cette longue histoire d'Israël qui commence à l'Exode et se termine à notre chapitre. Non pas qu'elle soit close définitivement, elle ne l'est qu'en ce qui concerne ce peuple et ses rois envisagés comme responsables. Les entrailles du prophète Osée, émues des compassions divines, annoncent sa restauration future. Mon cœur est changé en moi, toutes ensemble mes compassions se sont émues, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme, le saint au milieu de toi. Et je ne viendrai pas avec colère. Ils marcheront après l'Éternel. Il rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront en émoi de l'Occident. Ils accourront en émoi de l'Égypte comme un oiseau et comme une colombe du pays d'Assyrie, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Osée 11, versets 8 à 11. Ce même Dieu qui leur avait donné un roi dans sa colère et l'avait ôté dans sa fureur, chapitre 13, verset 11, dit « Je les délivrerai de la main du Shéol, je les rachèterai de la mort », chapitre 13, verset 14. Et encore « Je guérirai leur abandon de moi, je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, et il poussera ses racines comme le Liban. Ses rejetons s'étendront, et sa magnificence sera comme l'olivier, et son parfum comme le Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils feront vivre le froment, et ils fleuriront comme une vigne. Leur renommée sera comme le vin du Liban. » Chapitre 14, versets 4 à 7. Du verset 7 à 18 de notre chapitre, Dieu montre ce qu'il avait fait pour Israël depuis que, les délivrant d'Égypte, il les avait introduits en Canaan. Verset 7. Il parle ensuite de ce que avait fait, agissant d'abord en secret contre l'Éternel, marchant suivant l'idolâtrie des nations que Dieu avait dépossédées devant eux, et dans les statuts que les rois d'Israël, à commencer par Jéroboam Ier, avaient établis en fondant et maintenant la religion nationale des veaux de Dan et de Bethel. De plus, ils avaient érigé partout dans leurs villes fortes et jusqu'auprès des tours de garde, observatoires isolés, des hauts lieux et des idoles, mâles et femelles, avec plus de débordements que Juda, qui s'était contenté de conserver les hauts lieux, consacrés autrefois au culte de l'Éternel, et en avait fait des places de pratiques idolâtres. Versets 8 à 13. L'Éternel avait rendu témoignage contre eux et contre Juda par tous les prophètes. Les avait-il écoutés? Non. Ils avaient abandonné les commandements de l'Alliance pour se livrer à l'affreuse apostasie, décrite sous toutes les faces au verset 14 à 17. Enfin, dans sa colère, Dieu les avait ôtés de devant sa face, et il n'en était resté que la seule tribu de Juda, sans doute pour peu de temps, mais Dieu la reconnaissait encore selon la parole d'Osée, « Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de fraude, mais Juda marche encore avec Dieu et avec les vrais saints. » Osée 12, verset 1. Au verset 19 et 20, Dieu mentionne Juda comme en passant. Ce dernier avait suivi les statuts établis par les 10 tribus, aussi l'Éternel rejeta toute la semence d'Israël, mais du verset 21 au 24e, il revient à Éphraïm et à sa séparation de la maison de David. C'était là, sans doute, un jugement de l'Éternel contre Salomon, et comme tel ordonné de Dieu, mais d'autre part, c'était le fruit du mauvais cœur d'Israël, pour lequel le temple de Dieu à Jérusalem avait peu d'importance, quand il pensait à devenir une nation indépendante de Juda. Peut-être, néanmoins, Israël n'aurait-il pas songé, malgré cela, à se forger de toutes pièces une nouvelle religion, si les vues politiques de Jéroboam, entièrement étrangers à toute crainte de Dieu, n'avaient forcé son peuple à entrer dans cette voie. Jéroboam avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel et les avait fait commettre un grand péché. Verset 21. Mais, d'autre part, les fils d'Israël marchèrent, ils étaient donc coupables eux-mêmes, dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point. Verset 22. Aussi Israël fut transporté en Assyrie. On voit ici, verset 24 et au verset 6, l'immense extension qu'avait prise ce royaume. Le monarque assyrien fit venir des gens de Babel et d'autres lieux pour remplacer les déportés dans les villes de la Samarie. Ces nations idolâtres transportées dans la terre d'Israël ne craignaient pas l'Éternel. Il envoya contre elles des lions qui les tuaient. Malgré la désolation présente, Dieu avait souci du pays de son héritage. Il revendiquait ses droits sur lui et ne se les laissait pas enlever. Il ne voulait pas qu'il retombât sous la malédiction dont il l'avait délivré en exterminant les Cananéens. Quelle que fût la ruine, il ne fallait pas que le nom de l'Éternel fût entièrement arraché du pays d'Israël, et cela en vue de l'avenir, car le résidu, le vrai Israël, doit hériter la terre. Décimés par les lions, ces pauvres païens ignorants qui assimilaient le Dieu d'Israël à leur faux Dieu, comprennent ce jugement. Ils sont plus intelligents que le peuple de l'Éternel. Verset 26. Le roi d'Assyrie leur fait envoyer l'un des sacrificateurs transportés pour leur enseigner la coutume du Dieu du pays. Mais ce sacrificateur lui-même avait soutenu l'affreux mélange des idoles avec la religion du vrai Dieu et ne peut leur enseigner que sa propre corruption, en sorte que, d'un côté, ils apprennent à craindre l'Éternel, tandis que, de l'autre, chacun se fait ses dieux et les place dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient faites. Verset 29. Une religion corrompue, ce fait si évident a cependant besoin que l'on y insiste particulièrement, ne peut conduire les hommes dans la vérité et les formera toujours sur son modèle. Aussi est-il dit, ils craignaient l'Éternel et se firent d'entre toutes les classes du peuple des sacrificateurs des hauts lieux qui offraient des sacrifices pour eux dans les maisons des hauts lieux. Verset 32. Jéroboam n'avait-il pas fait de même à l'égard de la sacrificature? Ce qu'ils apprennent du sacrificateur de Samarie les engage dans le même chemin, seulement ils vont un peu plus loin, et les sacrificateurs qu'ils établissent à la façon de Jéroboam deviennent, tout simplement, des sacrificateurs de leurs idoles. Verset 32, voire aussi verset 29. La parole de Dieu répète qu'ils craignaient l'Éternel et servaient leur Dieu selon la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Verset 33. Mais elle ajoute, au verset 34, jusqu'à ce jour, ils font selon leur première coutume, ils ne craignent pas l'Éternel, Ils ne font pas selon leur statut et selon leur coutume, ni selon la loi, selon le commandement que l'Éternel avait commandé au fils de Jacob, qu'il nomma Israël. Verset 34. N'oublions pas que la crainte de l'Éternel, ce premier pas dans la voie de la sagesse, ne peut pas s'allier avec l'idolâtrie du monde, pas davantage avec les idoles des païens qu'avec celles du monde actuel qui, en rejetant Christ, a reconnu la domination de Satan. Ceux qui, en apparence, le craignent, de fait ne le craignent pas réellement, s'ils ne lui obéissent pas, car le craindre, c'est lui obéir. Dieu ne souffre pas de mélange. Remarquez dans tout ce passage combien la crainte de l'Éternel, ce commencement de la sagesse, avait été placée sur la conscience à la fois du peuple, versets 35 à 40, et des nations. L'Éternel avait dit à Israël, « Vous ne craindrez point d'autre Dieu », versets 35, 37 et 38. « Vous craindrez l'Éternel et vous vous prosternerez devant lui », verset 36. « Vous craindrez l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis », verset 39. Dans ce court passage, le mot « craindre l'Éternel » revient jusqu'à 11 fois. De cette ordonnance élémentaire, tout le reste dépendait et dépend encore. Quant à ces nations, en leur faisant sentir son déplaisir par l'attaque des lions, l'Éternel leur avait, pour ainsi dire, imprimé une direction vers lui, puis, suivant envers elles le même principe qu'il avait dirigé envers son peuple, il les avait laissées à leur propre responsabilité. Pas plus qu'Israël, elle n'en avait tenu compte. Mais lequel de ces deux parties était le plus coupable? Quand les captifs de Juda furent réintégrés dans leur pays pour recevoir le Christ, ils méprisaient profondément les Samaritains et n'avaient point de relation avec eux. Jean 4, verset 9. Mais ils allaient plus loin et disaient à leur Messie, « Tu es un Samaritain. » Jean 8, verset 48. C'est ainsi que l'homme religieux juge les autres hommes, lui qui est sous le même jugement, et c'est ainsi qu'il juge Dieu. Jésus rejeté accepte ce nom pour montrer dans une parabole que, malgré cette position de déshonneur qui lui était faite, lui seul était le dispensateur de la grâce, en contraste avec l'homme religieux, que sa propre justice empêchait d'être le prochain du malheureux Israël, tombé entre les mains des nations qu'il avait pillées.